suite cet après-midi de cette grande histoire des savoirs scientifiques avec un travail monumental réalisé par un collectif d'auteurs pour les éditions du Seuil sur 5 siècles de pratique et d'évolution des connaissances. Le premier volet nous a emmené juste avant les fêtes de fin d'année de la Renaissance aux Lumières pour comprendre l'essor de la science moderne, une période de grande rupture qui a amorcé une nouvelle vision, une nouvelle conception des sciences et des savoirs. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre route sur le chemin de l'histoire des sciences avec leur propagation au 19e siècle dans le monde, moment là aussi charnière de modernité et de globalisation. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Le son de notre voix peut influencer nos propres émotions. Eh bien, c'est une découverte à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, une expérience inédite qui prouve que nous nous écoutons parler pour analyser notre propre état émotionnel. On vous explique dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Et puis un nouveau rendez-vous le mardi en fin d'émission avec la chronique improbable de Pierre Barthélémy en partenariat avec le supplément Science et médecine du monde. Voilà donc pour le sommaire complet de cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier, dossier concocté aujourd'hui par Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'histoire des sciences et des savoirs, donc la suite de notre trilogie dans un instant, avec aujourd'hui le 19e siècle entre modernité et globalisation. Bonjour Dominique Pestre et Kapil Raj.
Bonjour.
Dominique Pestre, cette nouvelle tranche d'histoire commence en 1770 à peu près. Qu'est-ce qui justifie ce point de départ?
Peut-être la situation française, parce qu'on a beau être dans des histoires que nous essayons de plus globales, ce moment-là a quelque chose en France de particulier peut-être, qui est... Disons, les gens qui s'appellent Laplace, qui s'appellent Lavoisier, qui s'appellent Monge, qui sont liés à la Révolution, qui font la Révolution, qui sont des libéraux de la Révolution, etc. Et quelque chose d'autre peut-être émerger dans le rapport, dans ce qu'est la science et son rapport au social.
Kapil Raj, on va sortir également avec vous d'une vision européenne nombriliste pour s'apercevoir que les sciences sont aussi très vivantes dans le reste du monde.
Ah oui, c'est-à-dire, les sciences, c'est pas seulement ici en France, parce que c'est ça, la vieille vision. Non seulement nombriliste, mais aussi diffusionniste. C'est-à-dire que, en fait, le berceau de la science, de la modernité, c'est l'Europe, et qui, par la suite, rayonne ses savoirs, sa modernité, ses valeurs, surtout au reste du monde. Et là, justement, ce volume remet en question ce paradigme, essaye de revisiter par 3 exemples. Les États-Unis, l'Inde et le Japon, de voir comment, en fait, ça se passe ailleurs aussi.
Et on ira donc voyager avec vous pour voir un petit peu l'état des sciences à cette époque dans le reste du monde. Et on va se retrouver aussi avec les histoires de sciences et les savoirs des auditeurs, puisqu'ils nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, une étude originale qui montre que la manière dont nous percevons le son de notre voix peut influencer directement nos émotions. Drôle de chose. Bonjour Jean-Julien Couturier.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes neuroscientifique et informaticien, chercheur à l'IRCAM pour le CNRS. Et vous venez de publier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines les résultats donc de cette drôle d'expérience où vous levez en partie le voile sur les mécanismes de production d'une émotion vocale et surtout sur la perception que nous en avons. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait.
Ben voilà, on sait depuis longtemps que quand quelqu'un ressent une émotion, le son de sa voix va trahir ou communiquer cette émotion. On sait quand quelqu'un est joyeux, on peut l'entendre dans sa voix. Quand il est triste, on peut l'entendre également. Et on s'est posé la question un peu inverse, un peu bizarre, de savoir si... On s'est dit finalement, la voix qu'on entend le plus dans notre vie au quotidien, c'est la nôtre. Là, je suis en train de parler, en continu, j'entends ce que je suis en train de dire. Et on s'est posé la question, avec mes collègues, de savoir si finalement le son de notre propre voix avait une influence sur nous. C'est-à-dire si notre cerveau traitait les émotions dans notre voix comme il pourrait la traiter dans la voix d'autrui.
Concrètement, comment avez-vous fait? Vous avez modifié la voix des gens pendant qu'ils parlaient?
Alors voilà, c'est du coup, ça c'est une idée de départ qui était très bien. On s'est dit, c'est super, on va faire ça la semaine prochaine. Et puis ça nous a pris un petit moment avant de réussir à faire une expérience qui traite vraiment cette question. Parce que la situation qu'on devait obtenir, en fait, c'était une situation où on demandait à des gens de parler, par exemple de lire un texte. C'est ce qu'on a fait, on leur a donné un texte à lire à voix haute. Donc ils parlent dans un microphone, ils ont des écouteurs. Et par contre, à leur insu, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a réussi à faire, c'est de transformer le son de leur voix au fur et à mesure qu'ils parlaient, pour faire sonner cette voix, comme on ferait sonner un instrument de musique, sonner cette voix d'une façon plus ou moins émotionnelle, c'est-à-dire rendre leur voix plus joyeuse ou plus triste, mais en temps réel, c'est-à-dire vraiment au fur et à mesure où ça sortait de leur bouche, un petit peu comme si on attrapait le son, et puis très très vite on met ça dans un ordinateur qui transforme un peu la voix et qui le renvoie aux écouteurs, en pratique en moins de 20 millisecondes, parce qu'il ne faut pas interrompre évidemment le couplage très très fin qu'il y a entre le moment où on parle et le moment où on s'entend.
Alors Axel, justement, vous avez demandé à un cobaye maison de se prêter à l'expérience.
Ah bon, on a demandé à Charline Van Den Hoeke d'enregistrer une petite phrase que vous allez d'abord entendre en version originale et après on s'amusera à mettre quelques filtres dessus. D'abord, la version originale.
Salut, c'est Charline. Je prête ma voix à la tête au carré aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Vive la République, vive la France Inter.
Voilà. On peut appliquer un petit filtre de tristesse pour voir ce que ça donne.
Salut, c'est Charline. Je prête ma voix à la tête au carré aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage.
Alors,
vive la République, vive la France Inter.
Jean-Julien Aucouturier, donc là, vous avez procédé justement à un premier filtrage dans la voix de Charline, c'est ça?
C'est ça. Donc là, en fait, très rapidement, on peut analyser la hauteur de la voix du locuteur et appliquer des transformations sur cette hauteur de la voix. Est-ce que c'est plus ou moins grave, plus ou moins aigu? Donc une première chose qu'on peut faire pour manipuler le côté joyeux ou triste, c'est de monter la hauteur de la voix ou de la descendre. Là, on a entendu une voix qui était un petit peu descendue. Mais on peut faire des choses plus fines aussi. Par exemple, on peut faire trembler à certains moments cette voix. Ce qui donne un effet un peu comme ça, si je le caricature. Si on le fait de façon très subtile, ça va donner des indices au cerveau qui va traiter ces voix, qui va se dire, tiens, on a quelqu'un qui est dans un état un peu instable, un petit peu triste, un petit peu larmoyant peut-être.
Ça, c'était la partie expérience. Et ensuite, vous avez posé des questions à ces participants. Et là, vous avez découvert quelque chose d'assez étonnant.
Eh bien voilà, c'était vraiment une question ouverte. La première chose dont on s'est rendu compte et qui nous a surpris, c'est qu'en fait très peu des participants, on a fait passer plus d'une centaine de personnes sur plusieurs expériences, très peu des participants qu'on a eus ont même détecté qu'il y avait cette manipulation. C'est-à-dire que les gens ont parlé, ils ont parlé avec un ton, disons, neutre, ils ont entendu dans leurs écouteurs quelque chose de finalement très différent, parce que des auditeurs extérieurs ont validé que oui, ce qu'ils entendaient, c'était vraiment largement déformé par rapport à ce qu'ils disaient eux, mais tout le monde l'entendait sauf eux, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, êtres humains, n'avons pas un contrôle très fin sur le ton émotionnel de notre voix. C'est-à-dire qu'on peut le contrôler, on peut le faire plus ou moins joyeux ou triste à la demande, comme on l'a fait là en imitant un petit peu. Par contre, s'il y a une erreur, c'est-à-dire que si on est dans un état émotionnel donné et que notre voix, au contraire, traduit une émotion très différente, bien ça, on va typiquement pas le détecter. On va pas se rendre compte qu'il y a un mismatch, une erreur entre notre état interne et notre voix. Ça, c'est la première découverte qui était déjà assez inattendue. Mais non seulement on s'est rendu compte que les gens ne détectaient pas, mais encore pire, si j'allais dire, ils croyaient, ils faisaient confiance à ce qu'ils entendaient plutôt que leur état interne. C'est-à-dire qu'on a posé des questions sur le ressenti émotionnel de nos participants avant et après la lecture à voix haute manipulée, si je peux dire. Et on s'est rendu compte que les participants qui avaient lu en écoutant leur voix transformée de façon joyeuse étaient dans un état beaucoup plus joyeux après qu'avant. Et au contraire, les gens dans la pièce d'à côté qui avaient lu avec leur voix modifiée de façon triste étaient dans un état plus triste après qu'avant. C'est-à-dire que les participants, finalement, ont lu dans leur propre voix des informations sur leur propre état émotionnel et ont fini par adopter cet état émotionnel, à faire confiance finalement à ce qu'ils entendaient plutôt que ce qu'ils ressentaient au départ.
Mais vous avez un pouvoir terrible parce que vous pouvez manipuler les gens comme vous voulez, alors du coup, Jean-Julien Couturier.
Alors finalement, c'est pas nous qui les manipulons, c'est leur propre cerveau qui...
Ah mais oui, mais parce que vous avez filtré leur voix quand même.
Ce qu'on n'a pas testé, c'est que c'est effectivement un effet qui est probablement assez transitoire. C'est-à-dire que, ouais, à partir du moment où on débranche l'effet, bien, on s'entend à nouveau avec une émotion différente. Mmh. En fait, je pense que c'est un phénomène qui est continu et qui est assez révélateur de la façon dont on fait introspection sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette théorie de self-perception, de la perception de soi, où en fait, on écoute nos propres signaux, notre rythme cardiaque, notre voix, nos muscles du visage, une expérience là-dessus, et qu'on traite ces signaux exactement comme on traiterait les signaux qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on interprète notre état en fonction de ce qu'on voit de notre corps et de ce qu'on entend de notre corps, en l'occurrence.
Alors, Axel, on va réécouter notre cobaye. Allez. Charline, d'abord dans la version neutre.
Et après, on rajoute un filtre de joie par-dessus. Allez, on y va.
Salut, c'est Charline. Je prête ma voix à la tête au carré aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Vive la République, vive la France Inter.
Voilà, donc ça c'est la voix de Charline non transformée et la version avec le filtre joyeux, hein, c'est ça.
On y va.
Salut, c'est Charline. Je prête ma voix à la tête au carré aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Vive la République, vive la France Inter.
C'est quand même assez audible l'effet. C'est bizarre que les gens n'entendent pas cet effet quand il est appliqué sur la voix.
Il est mince quand même, hein, mais on peut quand même voir la tonalité qui change. Oui.
Quel type d'application peut avoir cette découverte, Jean-Julien Couturier?
Il y a des applications, comment dire, à la fois un peu fondamentales, théoriques, qui nous permettent de, si on arrive à mieux comprendre cet état de retour, de rétroaction périphérique vers nos émotions, une chose qu'on se pose par exemple, c'est des personnes qui sont dans un état émotionnel un peu compliqué, par exemple des personnes dans des épisodes dépressifs, ce genre de choses. Ça a une conséquence sur leur voix. Toute la journée, ces personnes s'entendent parler avec une voix qui connote des émotions négatives. D'après notre résultat, là, ça veut dire que finalement, il y a un feedback continu, une rétroaction continue de leur état émotionnel qui vient de leur voix. C'est un peu le cercle vicieux, si vous voulez. C'est-à-dire que plus on est triste, plus on parle de façon triste, et plus on parle de façon triste, plus on devient triste en écoutant ça. Et donc, ce mécanisme-là, on aimerait beaucoup le comprendre plus avant, en particulier dans des états un peu pathologiques, pour essayer de voir si on peut pas justement casser ce cercle vicieux, s'il est vraiment en place, et peut-être aussi imaginer peut-être des interventions avec cette technologie de transformation de voix, ou peut-être on pourrait habituer les gens à écouter, à s'entendre et finalement à se voir avec un état émotionnel qui n'est pas celui qu'ils auraient spontanément.
Merci beaucoup à vous, Jean-Julien Couturier. Axel.
On peut ajouter que ceux qui veulent expérimenter le logiciel de Jean-Julien, ils peuvent le télécharger sur la page Facebook ou le compte Twitter de l'émission. Il y a un lien.
Voilà, avec ces travaux présentés hier dans la revue PNAS. Merci beaucoup à vous. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, nos allergies qui proviendraient de gènes hérités de l'homme de Néandertal et de Denisova, des accouplements préhistoriques il y a 40 000 ans, nous auraient fait hériter de 1 à 6% des gènes de ces anciennes hominidés. Des chercheurs ont comparé le génome de plus de 1000 personnes avec celui de Néandertal et de Denisova. Ils montrent que cet héritage joue un rôle primordial dans l'efficacité de notre système immunitaire. En contrepartie d'une résistance plus forte contre les infections, eh bien nous serions également plus sensibles aux allergies. Et puis les requins se servent de leur odorat pour se repérer dans l'océan. Voici la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs américains qui ont comparé l'orientation de deux groupes de requins léopards. Ceux d'entre eux dont les narines avaient été obstruées par du coton ont été moins nombreux à se rapprocher des côtes pacifiques de l'Amérique du Nord, leur zone d'habitat naturel, que ceux de l'autre groupe. Leur parcours a été également beaucoup plus sinueux. Cette étude ne doit néanmoins pas sous-estimer le rôle joué par les autres sens du requin, comme celui de la vision pour naviguer. Allez, l'histoire des sciences et des savoirs, deuxième rendez-vous dans un instant. J'ai couru les innocents sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Allez, deuxième émission ce mois-ci de notre série de trois consacrée à l'histoire des sciences et des savoirs, avec aujourd'hui l'évocation du 19e siècle. Pour en parler donc, Dominique Prestre, c'est vous qui avez coordonné les trois volumes qui ont été publiés aux éditions du Seuil. Vous êtes physicien, historien des sciences, directeur d'études à l'EHESS. Tout comme vous, Kapil Raj, vous êtes également directeur d'études à l'EHESS et historien des interactions culturelles entre Européens et Asiatiques. Avec Otto Siboum, vous avez supervisé donc ce tome 2 de la collection sur la modernité et la globalisation. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Dominique Prestre, on le disait au cours de la première émission, vous avez donc réalisé avec tous les contributeurs un travail très ambitieux pour passer en revue 5 siècles d'histoire des sciences, de fabrication des savoirs et de leur transmission. Et alors, le public est au rendez-vous parce que c'est incroyable, c'est un vrai succès éditorial également.
Eh bien, oui, je pense que nous en sommes très heureux. Le Seuil est très surpris que ça marche si bien. Ouais. Je pense qu'ils étaient plus pessimistes que ça.
Ouais,
Nous réimprimons, enfin, ils réimpriment 3 000 ou 2 000 exemplaires de chaque. La première impression est déjà liquidée en librairie. Mmh. Il reste avec une petite victoire du premier volume sur les tomes 2 et 3.
Bon, il va falloir faire mieux aujourd'hui, justement. On va y contribuer pour que le deuxième volume se distingue. Pourquoi d'ailleurs un volume entièrement dédié au 19e siècle?
Le problème, le 19e siècle quand même, en termes de sciences, de techniques, d'idées de progrès, de modernité, de globalisation, des empires, les colonies, enfin, c'était quand même difficile de ne pas y consacrer un long moment.
Ouais. Il y a vraiment un avant et un après 19e siècle, Kapil Raj?
Oui. Si je peux rajouter un peu à ce que vient de dire Dominique, c'est que, en fait, le 19e, dans l'histoire des sciences, dans l'historiographie de l'histoire, des sciences, ça est quand même une période qui est spéciale, une période qui est dans cette historiographie marquée par ce qu'on appelle la seconde révolution scientifique, c'est-à-dire une révolution scientifique qui est liée à la révolution industrielle, qui articule science et technique, qui n'est pas le cas pour la première révolution scientifique, qui est aussi liée à la question de la modernité, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi une période qui est spécifiquement à part histoire des sciences.
Ce concept de modernité, là, justement, qu'est-ce qu'il signifie exactement? Et par rapport à la notion de progrès, alors aussi, il faut le distinguer ou pas?
C'est-à-dire que la modernité, en fait, la modernité comme elle a été conçue dans l'histoire par les historiens, par les sociologues, c'est effectivement très lié à l'idée du progrès, c'est-à-dire que c'est vraiment la croyance inconditionnelle dans le progrès, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, qui est mieux déjà qu'hier. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une idée de progrès vers l'avenir, mais c'est aussi inscrit dans une histoire, dans un enchaînement temporel qui va d'un passé moins bien vers un futur plus prometteur.
Dominique Prestre, vous expliquez également que le concept de science est passé du pluriel au singulier. Alors, ça veut dire quoi? On avait une multitude, au fond, de savoirs, et tout d'un coup, on a un concept avec la science.
Disons, il y a autant de savoirs différents après qu'avant. C'est pas ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est que d'un seul coup, on parle au singulier de cet objet. On appelle ça la science. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, les mots, ils sont pas exactement des reflets des réalités, mais par contre, ils disent beaucoup de choses sur les intentions qu'on a. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des savoirs et des sciences au début du 19e et qu'à la fin du siècle, on dit la science, c'est que cette fois, on est convaincu qu'il y a quelque chose qui incarne ce progrès. En fait, on pourrait dire, le progrès, il est civilisationnel. Nous apportons la civilisation. Il est technique et industriel. Et à la fin du siècle, il se dit aussi essentiellement scientifique. C'est la science qui est le cœur de tout. Et c'est la science. Vous comprenez qu'une fois que vous le mettez au singulier, ça prend une ampleur que n'avaient pas les sciences et les savoirs, vous voyez.
Et alors, vous balisez quelle période exactement? Parce qu'on parlait tout à l'heure de 1760. Donc, il y a la guerre de 7 ans et on va jusqu'en 1914, quoi, début du 20e siècle.
Oui, Alors, l'idée, c'est que jusque-là, comme je vous disais juste avant, que ce 19e siècle a été borné par, d'un côté, la révolution industrielle ou la Révolution française ou pour certains la Révolution américaine. Donc c'est un âge de révolution qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale qui remet, qui casse tout et à partir de là, en fait, on construit, on commence à construire le XXe siècle. Mais pour nous, en fait, nous avons vu quelque chose d'autre. C'est-à-dire que un autre phénomène qui a été largement oublié ou du moins mis de côté ou à un plan secondaire, c'est la globalisation. Et pour nous, et justement, cette idée diffusionniste qui vient de l'Europe, de l'âge des révolutions, qui crée la science et la modernité, qui par la suite se diffuse, est une idée qui a fait son chemin, qui a été dans l'histoire des autres champs historiques remise en question, plus personne n'y croit. Et c'est une invitation aussi, un appel aux historiens des sciences, en fait, de sortir, de prendre la globalisation comme un phénomène sérieux et critique pour comprendre cela. Alors, cette globalisation, cette nouvelle globalisation, parce que globalisation, il y a toujours eu, ne pas confondre avec la planétarisation, mais des histoires qui couvrent des espaces très longs, ça existe depuis très longtemps. Seulement que, il y a en fait le phénomène de la guerre des 7 ans, qu'on peut dire est vraiment, véritablement, la première guerre mondiale qui touche le monde, la planète entière, et qui en fait rabat les cartes partout, pas seulement en Europe. Il y a des empires qui s'effondrent, par exemple l'empire moghol, l'empire safavide, il y a l'empire russe qui est en train de s'étendre sur tout le continent asiatique, qui va confronter bientôt le Japon. Précisément au début de cette période qui s'ouvre à la fin de la guerre des 7 ans.
Donc c'est vraiment une nouvelle configuration planétaire, on le voit bien. Hein.
Exactement.
On rebat les cartes, comme vous le disiez.
Exactement. Ouais. Et on rabat les cartes, on les remélange, et c'est ça le moment qui est beaucoup plus fécond pour concevoir tous les enjeux, les nouveaux acteurs qui émergent, les nouvelles problématiques, et comment tout ça se met en place, et aussi comment l'Europe, en fait, commence à dominer le monde à partir de ce moment-là, parce que jusque-là, il n'y a pas de domination. Donc, il faut comprendre les sciences, il faut comprendre leur place aussi dans cette domination, et ne pas le prendre comme une donnée de départ.
Et dans ce contexte, Dominique Pestre, eh bien, il y a de nouveaux lieux où on pratique aussi les sciences. Et là aussi, on voit vraiment émerger de nouvelles façons d'approcher les domaines du savoir et de les présenter au public aussi.
Oui. Ce qu'on avait dit, ce dont on avait parlé il y a un mois, c'est vrai qu'on avait vu émerger des lieux nouveaux, les académies, par exemple, qui remplaçaient progressivement les universités. On avait vu les salons, on avait vu toute une série d'espaces. Là, ce qui est probablement intéressant, c'est qu'on voit émerger successivement les grandes écoles d'ingénieurs, d'abord. Et ça, c'est-à-dire les grandes écoles où l'on forme les praticiens de l'action technique. L'école des ponts et chaussées est la première, et l'école du génie de Mézières a lieu et à peu près créée en même temps, c'est-à-dire du génie militaire. On a ensuite les grandes écoles genre polytechnique, qui est créée aussi pendant la Révolution française. Enfin voilà. On a en Allemagne la création des nouvelles universités, l'université qui est organisée autour de la recherche, ce qui n'est pas du tout l'université médiévale, c'est un autre genre. Et puis à la fin du siècle, ce qui est très frappant, c'est les laboratoires industriels. C'est-à-dire une recherche qui a lieu dans les grandes entreprises de la chimie, de l'électrotechnologie. C'est le moment où est créé Siemens, où est créé Bayer, où est créée toute cette grande industrie allemande. Elle gagne sa force d'avoir intégré dans l'entreprise des réseaux qui sont liés aux universités. Le professeur est consultant, ses étudiants sont embauchés par l'entreprise. Et sur place, on développe des modes de travail liés à la production qui vont faire la grandeur, et qui font toujours, soyons honnêtes, la force de l'industrie allemande.
Alors ça, c'est la science, on pourrait dire, de l'intérieur. Et puis, il y a la science aussi, parallèlement à ce phénomène, qu'on donne à voir aussi au public, avec l'essor des musées et, par exemple, des expositions universelles. Avec un exemple, celle de 1851 à Londres, la plus grande exposition jamais tenue.
En 1851, sous le règne de la reine Victoria, Londres accueille la première exposition universelle. Selon le journal The Times, il faudrait 200 heures pour tout voir. Première nation industrialisée, Le Royaume-Uni est précurseur dans les domaines de la manufacture, du commerce et de l'ingénierie. L'exposition universelle ne reflète que les succès de l'Empire. Elle se tient au majestueux Crystal Palace. Composé de 290 000 panneaux de verre, il est 6 fois plus grand que la cathédrale Saint-Paul, l'équivalent de 10 terrains de football.
Au beau milieu de Hyde Park, on a érigé ce gigantesque palais qu'on a rempli de tous les objets qui nous remplissaient de fierté. Cela devait être magique de voir tous ces gens déambuler dans ce palais de glace et s'émerveiller devant tant d'innovations.
Voilà, extrait d'un documentaire sur les Britanniques, histoire d'un peuple, avec 6 millions de visiteurs à l'époque.
Hein. Oui, ça c'était un succès gigantesque. C'est absolument considérable, c'est un quart de la population, donc c'est absolument considérable.
Oui.
Un tiers presque.
Oui.
Donc c'est une nouvelle façon aussi de faire de la culture scientifique.
Tout à fait. C'est en plus avec des pavillons qui représentent presque la planète entière, toutes les colonies. Toute la production, en fait, de différentes parties du monde, les matières premières. Il y a plus de 120 ambassadeurs qui surgissent de nulle part au moment de l'ouverture, de l'inauguration de l'exposition autour de Victoria.
Et toutes les capitales essayent de rivaliser.
De rivaliser, absolument.
Parce qu'évidemment, il y a aussi Paris.
Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'exposition de 51, en fait, est une émulation de ce qui se passe à Paris pendant la décennie précédente.
Ouais.
Et que, par la suite, bien sûr, l'exposition de 1867 à Paris sera, en fait, essayera de faire mieux que Londres, et puis il y a Chicago, il y a...
Ouais. Dominique Pestre.
Oui, moi ce qui me fascine, c'est que on a la première forme de popularisation nouvelle sont les musées. Et par exemple, le CNAM est un très bon exemple. Et c'est organisé autour des machines, très largement, et des principes, mais des machines.
Ouais.
Alors, c'est encore... Des principes, on a des modèles réduits, on a des vraies machines, on les regarde fonctionner, et elles servent à l'enseignement, on travaille autour des machines. Donc ce sont des musées-écoles, en quelque sorte. Avec les expositions, la seconde moitié du 19e, c'est vraiment l'industrie qu'on présente. C'est la force des pays. C'est-à-dire, on est moins dans la machine et la technologie que dans les productions, dans la grandeur des pavillons de chacun des pays. Et c'est resté. Parce que jusque encore celle de Milan que j'ai vue cet été, on est encore dans la même logique.
Oui. Et c'est également la grande période des observatoires. C'est aussi une autre façon de regarder
c'est
le ciel.
Aussi
hein. On décide de construire ces observatoires au sommet des montagnes.
Exactement. C'est-à-dire que, et puis, ça aussi, c'est une autre façon de connecter le monde et de le globaliser et de le contrôler. C'est-à-dire de le coordonner comme un phénomène global. Mais pour revenir en fait aussi à ces expositions et au lien avec les musées, il faut voir que ce n'est pas que Londres, Paris et Chicago ou Milan, mais en fait, par exemple, à Bombay, même avant qu'il n'y ait d'exposition à Londres, tous les artefacts de l'archéologie qui vient de Moyen-Orient, en fait, transitent par Bombay, et Bombay copie ou bien vole des morceaux qui sont destinés à le British Museum, au British Museum, pour en fait construire un musée en Inde, à Bombay, pour la population indienne, qui est déjà extrêmement gourmande et qui veut justement s'inscrire dans cette modernité.
Le monde est vraiment en ébullition. Hein. C'est ce qu'on ressent partout, absolument sur tous les continents, et pas seulement en Europe avec le siècle des Lumières, parce que c'est ça aussi que vous montrez là-dedans, c'est qu'il faut sortir de ce nombrilisme et voir que partout ailleurs, en fait, on est dans le même mouvement.
Oui, moi, j'ai, ayant travaillé un peu sur le Brésil au 19e siècle, c'est une terre d'ébullition. Vous avez des expérimentateurs ambulants partout. qui montre les spectacles de science. Je veux dire, en 1830. Ouais. Je veux dire, il faut imaginer que c'est ça, le monde du 19e, et qu'on a vraiment un phénomène global. C'est pas, on n'est pas, nous, en train d'inventer la chose, puis généreusement de la distribuer aux autres. C'est un petit peu plus compliqué, quoi.
Ouais. Alors, la façon de regarder la Terre, parce qu'on parlait tout à l'heure avec des observatoires, c'est aussi une des grandes préoccupations de l'époque, et autour de la géographie, de la cartographie, il y a un certain nombre de disciplines, là aussi, qui émergent vraiment et qui s'intéressent à ce phénomène.
Je vais laisser Kapil parler de la cartographie, parce qu'il connaît ça mieux que moi, mais c'est aussi le début de la surveillance de la Terre. Ce qu'on a maintenant avec le changement climatique, tout ce dont on a entendu parler au mois de décembre, beaucoup, ça se met en place à ce moment-là. C'est-à-dire vous avez les grandes campagnes, par exemple, de mesures magnétiques. Alors c'est pareil, c'est des grandes campagnes coordonnées, ça implique, ça se passe avec un centre allemand, mais vous avez des gens qui font ça partout dans le monde, à l'échelle partout, qui font des relevés.
Et il y a une organisation du coup internationale qui s'organise aussi, hein, c'est ça, c'est pas chacun de son côté.
La science s'organise internationalement, et donc vous avez ces grandes campagnes, mais vous pouvez avoir la même chose sur la météorologie. C'est évident que par exemple les grandes compagnies maritimes ont intérêt à avoir des moyens d'alerte en mer, etc. Vous savez, la marine anglaise, la marine française, la marine russe, tout le monde collabore à la mise au point de choses qui servent à tout le monde, vous voyez, c'est... Le monde est en pleine expansion géographique, géopolitique, et se met en place tout un système de monitoring, de surveillance, d'information du monde, et ce sont les scientifiques qui organisent et qui collectent toute cette information.
Donc on mutualise absolument partout, Kapil Raj.
Oui, oui, on mutualise partout. Pour ajouter, c'est aussi, par exemple, la façon dont on cartographie les fonds de mer pour pouvoir... mettre des câbles parce que télégraphique. Ce n'est pas comme si le fond de la mer est plat. Non, c'est aussi accidenté que le reste de la Terre et il faut savoir quelle est cette topographie.
Et pour ça, on mobilise toutes les forces.
Et on mobilise toutes les forces. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut aussi qu'il y ait en fait une normalisation des mesures. Des mots que nous utilisons. Et c'est pour cela aussi que c'est très important de le voir comme un phénomène planétaire.
Histoire des sciences et des savoirs, modernité donc et globalisation, deuxième volet de cette série. Dans la tête au carré, on se retrouve dans un instant après Fear Nothing et Selassou.
Passing through your rainbow, oh, 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 the things I feel never had the same hope till I finally found you. Oh, now you made me feel like choosing love against time, love against time. Never had the same sound till I finally found.
Salassou à l'instant dans notre tête au carré. Dominique Pestre et Kapil Raj sont nos invités pour nous présenter donc le deuxième tome de cette histoire des sciences et des savoirs. Nous sommes au 19e siècle, modernité et globalisation. Et Kapil Raj, les mathématiques deviennent aussi une clé essentielle pour comprendre le monde à cette époque.
Oui, c'est-à-dire que en fait, les mathématiques au 19e, 17e, 18e siècle, pardon, sont... L'image, la perception des mathématiques chez les mathématiciens, chez les savants, en fait, c'est vraiment comme s'ils représentent la réalité. Ce sont, en fait, une réflexion, un reflet de la réalité. Et le grand changement pendant cette période, c'est que précisément les mathématiques se dissocient, prennent leur distance de cette vision que les objets mathématiques, les nombres, en fait, reflètent de la réalité et sont en fait des instruments pour comprendre la réalité. Le grand changement, c'est d'abord un déplacement des mathématiques qui sont plutôt donc des mathématiques dites pratiques, qui aident à la navigation, à la compréhension du monde physique et économique, vers un regard, une obsession même des nombres et des objets, des opérations qu'on appelle des opérations mathématiques. Donc, on peut concevoir tout complètement différemment en prenant ces distances de la réalité, c'est-à-dire de voir l'espace pas comme l'espace trois-dimensionnel, mais n-dimensionnel. Voir des opérations, addition, multiplication, etc., comme entre des objets qui ne donnent pas le même résultat, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire, donc dans ce cas-là, que 2 plus 2 fasse 4. C'est complètement, c'est-à-dire, c'est l'opération même et avec des entités qui ne sont pas des entités linéaires.
Et Dominique Pestre, il y a différents courants justement au sein des mathématiques à cette époque ?
Ah bah oui, nous avons d'ailleurs, l'article que nous avons commandité était d'essayer de mettre ça en... Disons de prendre l'idée qu'il y avait des mathématiques romantiques et des mathématiques très rationalistes.
C'est quoi les mathématiques romantiques, pour comprendre?
c'est une manière de dire. Oui, c'est une disposition de certaines personnes, c'est-à-dire que ça, leur manière de les faire sont différentes, quoi. C'est ça, on va dire tout de suite pour pas entrer dans des choses très compliquées, mais voilà. Donc
quelques courants. Donc à cette époque. Et puis l'avènement des microbes. Alors là aussi, évidemment, tout le monde connaît ça, et en France en particulier, avec la figure de Pasteur, mais c'est ce qui marque aussi de façon très importante cette période avec le 19e siècle, et on écoute justement l'extrait d'un documentaire autour de Pasteur.
Et il est tellement fort qu'il peut même voir les petits grands méchants que personne d'autre peut voir.
Je suis myope. Un défaut qui devient une qualité quand je regarde dans un microscope. Je peux voir facilement des choses que d'autres ne voient pas.
C'est pour ça qu'ils voient les petits grands méchants.
Et les petits gentils, il y a des gentils aussi. C'est d'ailleurs eux que j'ai vus en premier, il y a longtemps.
Et vous aviez quel âge?
Je ne sais pas, il y a longtemps.
35 ans.
35 ans.
Eh oui, le temps passe vite. Ça fait déjà presque 28 ans que tu passes plus de temps à regarder tes micro-organismes que ta femme.
Voilà, conseil avec humour, Madame Pasteur, quand même. Pasteur, c'est le titre de ce film, cette fiction d'Alain Brunard. Dominique Pestre, c'est la naissance donc de la vaccination. Et c'est un monde de microbes, vraiment, qui se révèle aux yeux du monde, là aussi.
Oui, oui. Alors bon, il y a effectivement cette version que le petit extrait a bien résumé. Le point sur lequel nous avons voulu insister, c'est que le 19e siècle, le second 19e siècle, le siècle des microbes. C'est-à-dire, le microbe est partout. C'est-à-dire, dans l'espace public, le microbe est partout. Et ça a énormément...
Ça change complètement les comportements.
Voilà, ça change les comportements ordinaires. Le principal effet de la microbiologie du 19e siècle, c'est qu'elle change les rapports ordinaires. Vous vous lavez les mains, la femme bourgeoise apprend à se laver les mains, il y a l'eau courante, dans les WC, vous avez ces WC que nous avons toujours maintenant, porcelaine blanche. Ouais. Ils sont inventés à ce moment-là. Donc, les effets dans l'ordre, je dirais, de la vie privée, de la vie publique, des comportements, est considérable. Par contre, on raconte toujours l'histoire comme si cette microbiologie était une histoire d'une grande victoire de la science sur les vaccinations, sur les sérums, sur la... En fait, ça, au 19e siècle, c'est beaucoup moins vrai. La plupart des vaccins ne marchent pas, la plupart de sérums sont pas très efficaces.
Oui, il y a quelques victimes au passage.
Et de toute façon, le taux de victimes est tel que c'est problématique. Donc, ce qu'on va dire, c'est que oui, le microbe est partout, il est surtout dans l'espace public, il est dans la vie quotidienne, et ça, ça change avec avec la période antérieure. Par contre, sur les pratiques réelles, techniques, il va falloir encore attendre un certain temps pour qu'on passe à une étape supérieure. Donc c'est un petit peu la petite reconfiguration que nous donnons à
l'éclairage.
Il y a l'effet d'annonce
sur la réalité.
Hein, ouais. C'est un effet d'annonce. Plus, exactement.
Ce phénomène d'hygiénisme, au fond, il concerne aussi la planète entière, capillarage, où là aussi, il faut apporter quand même quelques nuances selon les cultures.
Bien sûr. Et, il y a des nuances à apporter selon les cultures, même à l'intérieur de l'Europe. Par exemple, les fenêtres en Angleterre qui glissent en haut et en bas pour créer des courants d'air sont inadmissibles en France. Le courant d'air tue les Français. Oh, quand ce n'est pas les crises de foie. Donc, c'est-à-dire que ce sont des valeurs culturelles qui sont à l'œuvre ici, mais bien sûr, c'est-à-dire que l'architecture est très très fortement touchée par cet hygiénisme et par cette idée des microbes.
Alors l'Europe n'est pas la seule à détenir la connaissance scientifique, évidemment, on l'a dit depuis le début de cette émission, et c'est pour le coup aussi l'objet de cet ouvrage, c'est de montrer tout ce qui se passe ailleurs, avec, on va dire, trois contre-exemples intéressants, les États-Unis, l'Inde et le Japon. Les États-Unis d'abord, peut-être, Kapil Raj, qu'est-ce qui caractérise la science américaine? Parce qu'au fond, on l'associe à l'Occident, on pourrait imaginer qu'il se passe exactement la même chose qu'en Europe. Or là aussi, vous nuancez beaucoup, en rappelant qu'il y a une vraie caractéristique culturelle des États-Unis qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe.
Je nuancerai là, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y a rien à voir avec l'Europe, si. Mais seulement que les Américains, ou les États-Unis, disons, veulent marquer leur différence par rapport à la vieille Europe, avec lesquelles, bien sûr, ils ont des liens. On ne peut pas oublier que quelqu'un comme...
À qui pensez-vous?
Benjamin Franklin,
peut-être.
Benjamin Franklin. Voilà. Franklin. Bon. Précisément, un voyage en Europe, il est ici pendant très très longtemps, il est en contact avec les Européens, les Bartrams, etc. C'est tout le monde, et il y a une circulation énorme des récits, de leurs résultats, de leur façon de voir, etc. Ce n'est pas là la question. La question, c'est comment ils font et qu'est-ce qui les distingue du reste.
Alors, qu'est-ce qui les distingue, justement?
Justement, une des choses, c'est leur préoccupation, leur obsession avec les idées de différence de race, d'une part.
Donc, on peut parler d'une science racialisée pour les États-Unis.
Pour les États-Unis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui caractérise leur manière, déjà, de regarder le monde. Mais il faut aussi rappeler que les États-Unis, malgré ces circulations, veulent se distinguer, veulent poser une barrière entre eux et la vieille Europe. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le nouveau monde qui n'est pas l'ancien monde, qui a une autre façon de voir, où l'histoire se fait ailleurs, se fait sur les frontières, plutôt que dans les villes, par exemple. C'est vraiment une science des savoirs, une identité qui, pour eux, se crée ailleurs que dans les villes, c'est-à-dire contre le modèle européen.
On peut parler de sciences racialisées également pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
Oui, seulement que l'Australie et la Nouvelle-Zélande viennent un peu plus tard. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Dominique Pestre.
Peut-être deux points. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un comme Benjamin Franklin ou ceux qui viennent après lui... ce qui les intéresse, c'est aussi de dire fondamentalement que eux ne sont pas indiens, ou eux ne sont pas noirs, parce qu'il y a des populations noires dans les plantations, et il y a des indiens. Et eux, ils ne sont pas ça. C'est-à-dire que... Mais c'est une obsession, c'est-à-dire qu'il y a un discours de la race permanente, d'essentialisation raciale, que nous n'avons pas sous cette forme en Europe. Dans d'autres formes de racisme, c'est pas le problème, mais c'est pas cette forme-là. Et surtout, dans le même mouvement, c'est se différencier de eux, en tant qu'ils ont quand même profité de ce territoire et de la frontière, pour être meilleurs que les Européens. Et c'est l'affirmation que vis-à-vis des Européens, eux aussi sont différents. Ça, c'est une première chose. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que, en termes scientifiques, il y a certains, comme Benjamin Franklin, qui est un grand électricien, finalement reconnu par tous les électriciens, ceux qui s'occupent d'électricité, en Europe. Mais les vraies sciences fondamentales aux États-Unis, au 19e, jusque dans les années 1870, c'est ce qui relève des sciences agricoles et ce qui relève des territoires et de l'exploration. Ce qui n'est pas surprenant, c'est un territoire qu'on est en train de remplir. Et donc, la colonisation des territoires, c'est ça les sciences importantes. La vraie grande science américaine du milieu du 19e, c'est les sciences agricoles.
Extrait du film Esclaves pendant 12 ans, justement, pour revenir sur cet aspect de la racialisation de la science aux États-Unis.
Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Ce petit, ouvre la bouche. Bourg, plus grand. Regardez ça, il n'a pas été malade un seul jour de sa vie. Non, monsieur Ford. Je suis ravi de vous voir, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Celui-là? Il est très musclé, hein?
Combien pour Platt et Eliza?
Ah, oui. $1000 pour Platt et... Oh, il s'agit d'un nègre au talent considérable, je vous l'assure. $700 pour Eliza? Mon meilleur prix?
Accepteriez-vous un billet?
Non, pitié, monsieur. Bien sûr, aucun
problème. Ne
divisez
pas ma famille. Ne me prenez pas sans prendre aussi
mes... Eliza, silence!
Je deviendrai votre plus fidèle esclave, la plus fidèle esclave qui ait jamais vécu, mais je vous
votre
en supplie,
prix pour
ne
le petit.
Pas
ça. $600 pour le petit. Mon offre est finale.
Voilà ce film sorti en 2013, Esclaves pendant 12 ans, Dominique Peste, pour illustrer justement la façon dont on utilisait aussi les Afro-Américains pour les expériences scientifiques. À l'époque, ils ont beaucoup servi de cobayes.
Ah oui, oui, c'est très général. Au fond, il y avait eu un livre d'un de nos collègues qui s'appelle Chamayou et qui disait... il faudrait faire une science des corps vils, c'est-à-dire tous ces corps inférieurs. Et ça peut être très vaste. Alors évidemment, c'est le corps du colonisé, c'est le corps du noir, c'est le corps du jaune, etc. C'est aussi largement le corps des femmes, ça peut être le corps des enfants. Enfin, je veux dire, les corps vils, c'est en dehors des hommes mâles que nous sommes tous les quatre autour de cette table. Et ces corps-là ont été, dans tous les contextes, les terrains d'expérimentation, la vaccination... Et on a fait ça en Algérie, la France a fait ça en Algérie jusque dans les années 50, à très large échelle.
Le quatrième mâle, c'est Pierre Barthélémy, parce qu'on ne l'a pas signalé encore, mais qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On va retrouver dans un instant avec votre chronique. Dernier contre-exemple qu'appellera justement pour montrer que la science à cette époque, ça n'est pas qu'en Europe, c'est l'Inde. Alors ça aussi, c'est un sujet que vous connaissez bien et qui est très intéressant. Vous parlez d'une co-construction du savoir en Inde. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de préjugés sur la façon dont justement on a pu apporter le savoir de l'extérieur. Oui. Dans ce type de pays, alors qu'on voit que c'est dans les deux sens en réalité que ça se passe.
Oui, alors donc justement l'Inde, c'était parmi les trois exemples que nous avions pris de l'extérieur, donc hors de l'Europe, le Japon, les États-Unis et puis l'Inde. C'était justement pour remettre en question un peu ce modèle diffusionniste et pour voir que d'un côté, bien sûr, il y a cette circulation et la différence qui se construit dans la circulation, qui est le cas des États-Unis. Tandis qu'en Inde, c'est un pays qui est colonisé par les Britanniques. Donc, qui serait en fait le paradigme ou la façon de voir diffusionniste.
L'impérialisme
qui domine et
sur
qui, oui, avec
qui
leur hégémonie,
qui
impose leur savoir, justement.
Et les choses ne sont pas si simples.
Ne sont pas si simples.
Et vous avez raison de le rappeler, parce que comment ça fonctionne en réalité, c'est dans les deux sens.
Exactement, c'est dans les deux sens. J'ai pris trois exemples, trois terrains différents. Le premier, c'est justement la construction d'une anthropologie universelle pour lesquelles, en fait, c'est un savoir traditionnel de l'Europe, pour placer les races au sens classique du terme de l'homme biblique. Comment, quel est le rapport entre les différents peuples du monde? Et ça, cette idée rencontre, en fait, les mêmes préoccupations des fonctionnaires de l'Empire moghol qui viennent de rendre ou donner sa place à l'Empire britannique montante et comment en fait dans les deux empires nous avons les mêmes préoccupations et qu'il y a une co-construction de l'anthropologie du 19e siècle. Le deuxième exemple, c'est la cartographie où justement c'est une carte de l'Asie centrale qui est construite avec les Indiens et les Britanniques ensemble, qui collaborent, qui conçoivent des nouvelles manières de construire des nouveaux instruments et des nouvelles techniques de construction de ce monde.
Et le troisième exemple ?
Exemple, c'est les Indiens eux-mêmes, comment eux s'approprient de ce modèle justement pour construire leur nationalisme qui à la fois est un nationalisme mais qui est conçu complètement, d'une façon complètement globalisée.
On voit bien donc la porosité hein, au fond des échanges et des savoirs.
Ouais. Hein, oui, et il y avait, je pense que l'illustration que Kapil Raj a choisie dans son livre, parce qu'il y a une illustration par chapitre, c'est celle où on voit un dignitaire britannique, un membre de la Compagnie des Indes, qui est en train de discuter avec son Munshi, avec son personnage savant. Et on peut imaginer, par exemple, que si vous travaillez sur les langues, et que si vous commencez à faire une histoire des langues, une comparaison des langues, il faut que les deux soient à égalité, et parce que c'est bien l'Indien qui sait, et c'est pas l'Anglais qui sait.
Voilà, l'histoire des sciences et des savoirs, c'est le deuxième tome, Modernité et Globalisation, donc surtout autour du 19e. On se retrouvera le mois prochain, Dominique Pest, pour le dernier tome,
plaisir.
En vous souhaitant de faire mieux que le premier encore avec celui-là.
On va les rattraper.
Merci beaucoup. On va les rattraper, oui.
À bientôt, merci à vous.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Sciences et médecine du monde.
Voilà, c'est notre cadeau de rentrée. Bonjour Pierre Barthélémy.
Bonjour.
Nouveau rendez-vous du mardi dans la tête au carré.
Oui, pour commencer Mathieu, je vous pose une question. Quand vous allez au concert, avec quoi écoutez-vous la musique ?
Alors a priori, j'emporte avec moi mes deux oreilles, voilà.
Voilà, avec vous emportez vos oreilles, mais pas que. En fait, l'expérience musicale est multisensorielle, c'est-à-dire que plusieurs sens sont associés. Et l'exemple le plus parlant date de 2013. Une chercheuse américaine s'était intéressée aux concours internationaux de musique classique. Elle avait montré que si les jurys n'avaient pas vu les postures ou les mimiques des musiciens, s'ils s'étaient fiés uniquement au son, ils n'auraient pas couronné les mêmes interprètes.
Donc ça veut dire quoi ? Qu'on écoute aussi un petit peu avec les yeux, est-ce qu'il y a d'autres sens associés à la musique, Pierre ?
C'est ce que dit une équipe américaine qui a exploré les relations entre la musique et l'odorat, un sens qui possède une vraie puissance évocatrice. Ces chercheurs ont présenté leurs résultats l'an dernier et leur idée consistait à vérifier si à tel genre musical correspondait une odeur particulière. Est-ce que, par exemple, la truite de Schubert sent vraiment le poisson ? Et si cette association musique-odeur existe, par quel mécanisme passe-t-elle ?
Bon, j'imagine qu'ils ont mené une expérience. Comment est-ce qu'ils ont testé tout ça ?
Alors, je vous donne la recette. Vous prenez quelques dizaines de cobayes, une sélection musicale éclectique pour étudier toute la gamme des émotions et des odeurs. Ça va de Bach au jazz, en passant par le reggae, les percussions javanaises.
Le reggae, on sait quoi ? Enfin, on connaît l'odeur du reggae un petit peu. Hein.
Ouais, on connaît un peu l'odeur du reggae. La folk des Balkans et même la pop des années 80, c'est dire. Enfin, ces chercheurs se sont munis de stylos à odeur pour évoquer les parfums de pommes, de cannelle, d'ail, etc. L'expérience consistait à diffuser les morceaux de musique aux participants en leur faisant respirer ces odeurs et en leur demandant deux choses. Quelles émotions ces parfums et ces airs suscitaient ? Et quelle odeur collait le mieux à chaque genre musical ? Vous serez pas étonné d'apprendre que le jazz était marié au café ou que les percussions javanaises rappelaient le clou de girofle, une épice qui est originaire d'Asie.
Il y a des résultats moins attendus, Pierre ?
Oui, alors celui que je préfère, c'est le rapprochement entre le heavy metal et l'odeur du poisson. Alors, les méchantes langues diraient que c'est pas surprenant, puisque les braillements de certains métalleux ressemblent aux cris des marchandes de poissons.
Oh là 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 !
Et elles n'auraient pas complètement tort. L'expérience a en effet montré que l'association entre musique et odeur se faisait grâce à un médiateur qui est l'émotion. Comme les émotions évoquées par l'odeur du café se rapprochent des émotions que le jazz suscite, comme on joue sur le même spectre d'émotions en fait, le jazz et le café s'associent dans l'esprit des gens. Et comme ce qu'évoque le heavy metal et l'odeur du poisson, c'est la force et la puissance, le heavy metal pue la sardine grillée.
Bon, bah faites attention Pierre, on pourrait vous attendre à la sortie avec quelques poissons bien odorants. En tout cas, on retrouve cette chronique dans le supplément du Monde, Sciences et Médecine. Très rapidement Pierre, le supplément, de quoi parle-t-on ?
Alors très rapidement, cette semaine, c'est un grand dossier sur Wikipédia qui fête ses 15 ans d'existence le 15 janvier. Alors c'est pas au côté encyclopédie en ligne que David Larousserie s'est intéressé, mais au fait que Wikipédia est lui-même devenu un objet de recherche, un objet de science. On a par exemple des chercheurs qui s'interrogent sur le fonctionnement des vandales du web, d'autres qui travaillent sur la traduction automatique. Et quelque chose de vraiment important, c'est la gestion des bases de connaissances, c'est-à-dire la manière pour des machines, quand on leur pose une question, d'aller chercher la réponse sur Wikipédia.
Supplément Sciences et Médecine du Monde dans les kiosques cet après-midi.